Bonsoir Denis Podalydès.
Bonsoir.
Du coup, j'en bafouille.
Ah oui. Oh, vous n'êtes pas la première.
Ça commence bien.
Ouais. Toute ma vie qui est.
C'est ça. Bon. Vous êtes avec nous pour nous présenter Célidon disparu aux éditions Mercure de France. Dans ce livre, vous prenez le temps, on peut le dire comme ça, de rejouer, de revivre, de ressentir des souvenirs, des sensations fortes.
Oui, des sensations.
Des sensations. Même
pas forcément fortes d'ailleurs, parce que derrière parfois des sensations très fugitives, il y a toute une histoire qui, si pour peu qu'on tire le fil,
c'est ça,
et qu'on mette les mots, et les mots qui conviennent, qui me semblent convenir, il y a toute une histoire qui apparaît, plus ou moins fictive, parce que la mémoire joue des tours invraisemblables. Je m'en rends compte, moi, je crois, parce que je ne vérifie pas forcément. Je n'appelle pas des gens pour dire est-ce que c'était vrai que... je fais des petites recherches, mais je préfère suivre aussi, parce que la mémoire un peu traîtresse, ça me plaît aussi. Ça m'écarte du trop de vérité. Le trop de vérité me gêne beaucoup. J'aime une vérité plus masquée, peut-être. Pas masquée, parce que ça veut dire mensonge, mais atténuée, ou non, c'est pas le bon mot non plus, je le trouverai sans doute pas. Voilée, disons.
En tout cas, vous aimez ça. Vous aimez l'exercice,
ah oui,
tout d'un coup, d'avoir un événement, un souvenir, et de vous laisser porter par ce souvenir.
Bah, par exemple, c'est très simple. Un des tout premiers textes, je me rappelais d'un soleil couchant à l'île d'Oléron. Je le datais 75 à peu près, ou 76, un peu plus, 78 peut-être même. Et je me disais, mais pourquoi ce soleil couchant là? C'était très précis parce que je voyais la manière dont il se reflétait sur la mer, la manière dont mon petit frère était baigné dans une très très jolie lumière, les chevaux qui passaient, la marée était descendante. Donc je me disais, pourquoi ce soleil couchant là est si persistant? Pourquoi? Et petit à petit m'est revenu le fil de toute une soirée, en fait très pénible, de ma vie de famille, dans laquelle mes parents, mon frère aîné avait joué un certain rôle, et qui était une scène en fait même violente, et qui finissait par être très violente pour ma mère. Et ma mère, comme ça, au fil des textes, alors que je cherche une sensation, vous voyez, un soleil couchant entre 75 et 78, pourquoi? Et puis surgit ma mère dans un moment vraiment douloureux que j'avais un peu occulté, et je l'ai retrouvé de ce biais-là. Donc voilà, mais c'est l'écriture qui me fait retrouver ça. Et je ne suis pas tout à fait sûr après que ce soir-là, il y ait eu exactement une scène entre mon père et mon frère, un dîner de famille très silencieux et lugubre, et puis ma mère abandonnée dans le jardinet à la suite de ce dîner, et d'entendre dans sa voix un désarroi, bah, plus que ça, un désespoir profond. Mais voilà, ça, le texte donne ça.
Mais vos textes nous touchent tous, parce que finalement, ce principe des souvenirs comme ça, fulgurants, qu'on reste enregistrés, on l'a tous.
Oui.
Vous, c'est toujours finalement le point de départ d'une histoire.
Oui, souvent. Alors, on écrit comme on écrit, c'est-à-dire j'ai tenté, bien sûr, des fictions purement romanesques, des pièces de théâtre, j'en écrivais beaucoup quand j'étais adolescent, mais finalement, un des biais d'écriture, une façon d'écrire qui me reste, c'est celle-là, c'est l'écriture autobiographique, c'est l'écriture du souvenir. Du souvenir diffus, et c'est là où j'aime soudain écrire. J'ai découvert ça finalement il y a pas si longtemps, que j'ai écrit un livre qui s'appelait Voix off, parce qu'on m'a demandé en fait de faire un autoportrait avec des photos et des textes. Et puis finalement, j'ai réentendu des voix. En fait, c'était simplement en faisant la remarque que j'essayais de décrire la voix de ma grand-mère, puis la voix de ma mère, la voix de mon père, et d'en déduire la voix d'un grand-père que je n'ai pas connu, parce qu'on m'avait décrit. Et je me rendais compte que c'était une difficulté sans nom. Et c'est ça qui m'a intéressé. Comment décrire la voix, et en essayant de faire des portraits vocaux, des portraits de voix, pareil, revenaient des souvenirs extrêmement précis, des choses tout à fait ordonnées, et surtout que j'arrivais à écrire avec plaisir, plutôt pas trop mal, ce qui fait que le livre, j'ai pu le faire comme je l'entendais, et il me semblait bien. Mais voilà, j'avais un peu trouvé ma façon d'écrire.
Alors on a l'impression, quand on vous lit, que finalement le temps passe trop vite. On a l'impression que justement, finalement, ces souvenirs, vous aimez avoir le temps d'y revenir et puis de pouvoir en faire quelque chose, de pouvoir presque vous y installer, de vous y attarder.
C'est ça. Oui, oui. Je sais pas, j'ai une propension personnelle à partir en arrière, à faire du flashback. Je sais que quand j'étais petit, j'adorais les flashbacks, comme j'adorais dans les films, j'adore toujours une histoire qui commence par une voix off. D'où d'ailleurs le titre de ses premiers livres. Et le flashback est une façon pour moi très énergisante, très énergique d'ouvrir sur une histoire. Alors,
est-ce que ça veut dire pour vous que les choses passent très vite et que finalement il vous faut du temps,
peut-être
pour pas forcément les comprendre, mais les appréhender?
Ça doit aller avec j'ai l'esprit d'escalier. Tout le monde connaît ça. J'entends des rires qui... Et moi, alors là, je suis un spécimen, mais royal. C'était les
Vous
choses...
l'avez inventé.
Ah, je me demande, je crois que c'est Rousseau. Je crois que ça vient de Jean-Jacques Rousseau.
Oui, c'est en tout cas,
d'escalier.
C'est ce que Voltaire en disait.
Et ce qui est drôle, parce que Jean-Jacques Rousseau, je l'ai lu énormément, adolescent et à différents âges, un peu comme j'ai lu l'écrivain Michel Léris, en m'identifiant très profondément au personnage. Et les rêveries du promeneur solitaire, par exemple, c'est un texte que j'ai énormément pratiqué, aussi bien en tant que lecteur que spectateur. Je me rappelle un très beau spectacle où Gérard de Sarthe faisait un magnifique Rousseau. Et je l'ai enregistré pour les éditions Télém, je crois. Et c'est un texte... Et je me souviens qu'il raconte ça. Et alors, je me dis, je suis... Donc, il y a des scènes que je ne vis pas tout à fait au présent, où je n'ai pas la présence d'esprit, par exemple, dans les polémiques, par exemple, dans les échanges verbaux un peu vifs, les phrases vont venir après, en bas de l'escalier. Et là, je reconstitue une scène, parfois d'une violence insensée, enfin, d'une hauteur, d'une fulgurance d'esprit, mais sauf que au moment présent, je bredouillais ou je disais une chose convenue. Là, je sais, par exemple, les plus belles choses, elles vont me venir dans le train, ou dans le petit escalier derrière. Là, j'aurais dû dire ça. Et alors, souvent, je les garde dans un coin de ma tête en me disant, à la prochaine rencontre, par exemple, j'en ai fait une samedi dernier à Paris, je me dis, ah ben voilà, en fait, c'est comme ça que je devrais dire la chose dont je vais la dire à Bordeaux. Mais voilà, je ne sais même plus du tout de quoi il s'agissait.
C'est ça. Donc, en fait, il vous faut un temps pour...
Il faut apprendre un temps pour mémoriser. Je suis un acteur au départ, donc j'ai besoin d'apprendre mon texte, j'ai besoin de le répéter aussi. Mais je ne répète en fait jamais les choses de la vraie vie. Parce que tout le monde sait qu'apprendre un texte, c'est très fastidieux, c'est long, c'est ennuyeux au possible. Parfois, j'essaie de trouver des jeux pour rendre cet exercice quand même un tout petit peu drôle. Et j'y arrive parce que dans le fond, j'aime bien ça. J'aime bien le ressassement. Et ça me ramène à ça, à cette écriture. C'est pour ça qu'au début du livre, je parle beaucoup de l'écriture en arrière et même d'un jeu enfantin que d'ailleurs beaucoup de gens ont pratiqué. J'ai découvert, j'étais pas du tout l'inventeur de ce genre de truc. J'avais inventé, comme font beaucoup d'enfants, une langue imaginaire, parlée par personne et que je n'ai jamais parlé avec personne d'ailleurs. J'ai parlé tout seul cette langue, c'était infernal. Et le principe était tout bête, c'était d'inverser les lettres. Vous voyez, tout le monde a fait ça. Et donc je fourbissais des phrases comme ça, et en fait j'ai pris pour commencer pour ouvrir un peu le livre le thème de cette langue imaginaire qui va toujours à rebours, ce qui est un boustrophédon. Un boustrophédon, c'est une écriture, enfin c'est une des premières écritures de l'histoire de l'humanité, je crois, où on écrivait dans les deux sens, avant, arrière, et boustrophédon, c'est le bœuf qui trace son sillon et qui va et qui vient et qui va et qui vient.
Comme vous le dites, vous ouvrez ce livre sur cette langue qui n'est pas qu'une langue, parce qu'attention, vous mettez la barre assez haute. Vous imaginez le pays qui va avec, la carte qui va avec. Enfin, quand même, c'est un projet très, très, très ambitieux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un côté très Peter Pan, c'est un monde imaginaire.
Oui, 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 c'est le goût pur, absolu pour l'imaginaire, pour les territoires inventés, pour la fiction, pour tout ce qui m'éloigne ou me coupe un peu du réel pour un certain temps. Je me rappelle qu'on disait ça, je suis pas un enfant rêveur, on disait ça tout le temps de moi. Même si j'avais une vie quand même enfantine, sociale, ensuite très très développée, avec mon frère aîné notamment, et mes petits frères ensuite, en même temps d'ailleurs, j'avais ce goût-là, donc un goût de l'écriture, un goût de la scène théâtrale, le goût de toute forme de scène sur lesquelles se déroulait une fiction. Et je n'ai pas cessé de construire des petits plateaux imaginaires, des scènes imaginaires, et d'inventer des scènes, ça c'est... Je pense que on a cette propension là. D'ailleurs, ça veut pas dire forcément donc qu'on fuit la réalité ou que la réalité est perçue comme quelque chose d'horrible. Si la réalité est quelque chose contre quoi on se cogne, et sans doute par peur du premier choc, j'ai tout de suite bifurqué du côté de l'imaginaire pour éviter certains affrontements, soit avec des personnes, soit avec des choses, tout simplement, soit avec une réalité qui peut être une réalité scolaire, une réalité amoureuse. C'est des stratégies d'évitement parfaitement au départ inconscientes et puis après qu'on essaie de construire, d'aménager. Donc on invente des choses pour, parce que c'est un vide en même temps.
Alors vous racontez dans ce livre que finalement le spectacle a toujours fait partie de votre univers et notamment avec votre frère Bruno, et ça on le sait publiquement, vous avez toujours fait du spectacle. En réalité, vous avez toujours eu alors quoi finalement deux vies un peu parallèles en permanence entre l'imaginaire et le réel. Et vous dites à un moment donné que les moments où vous écrivez, les moments où vous êtes ailleurs, c'est une bulle dont vous avez besoin.
Ah oui, bah oui, c'est un oui, oui,
parce que le réel vous heurte toujours autant.
Je dirais moins quand même, j'ai grandi, mais. C'est inscrit, je peux pas dire autrement que c'est
comme
ça.
Pas vous empêcher.
Je peux pas, non, j'ai un oui, je peux pas m'empêcher de rêver dans le dur, quoi. De rêver, il y en a peut-être qui rêvent doucement. Un rêve, moi je rêve, c'est ça peut me prendre beaucoup de temps, un temps de vie considérable, puisque mes enfants me rappellent sans arrêt à la réalité, et j'ai entendu ça toute ma vie, Denis. Vous savez, ce petit coup de gong comme ça, ce que disaient les professeurs, ce que a toujours dit mon entourage, et je vois comme je peux être même ça que la vie, par exemple, la vie conversationnelle mondaine est quelque chose qui n'est pas du tout évident pour moi, même s'il y a des moments où je peux m'y consacrer pleinement, mais en général, je décroche, il y a quelque chose en moi qui décroche.
Il y a un élément à un moment donné, un mot.
Je pars. Oui, je pars. Et alors, je pars pas physiquement, parce que je suis pas quelqu'un de très sociable. Je suis là, je peux manger raisonnablement, mais j'ai décroché.
Alors, cet univers que vous inventez, vous avez une dizaine d'années. Il est assez singulier. Il a quelque chose qui est à la fois aussi drôle que touchant, puisque vous dites que ce pays imaginaire que vous inventez, c'est un pays de gauche.
Oui, c'est vrai.
Vous reprenez en fait les caractéristiques d'un journaliste qui s'appelle Sidney Harris, qui décrit les trois tâches les plus difficiles en termes d'actes moraux. Donc, dans ce pays, donc il y a trois grandes règles, hein, inclure les exclus, savoir dire j'ai tort.
J'ai pas dit ça, moi.
Si, répondre à la haine par l'amour. C'est dans votre livre. Alors, il se trouve que je l'ai lu.
Je cite qui? Dites-moi.
Sidney Harris.
Je voudrais bien retrouver dans le livre parce que je me rappelle pas de ce truc là.
Bon, c'est bien, vous avez un train à prendre après, vous avez 2 heures, je vous donnerai un exemplaire.
Ouais.
Il n'y a pas de problème. En tout cas, bon, ça vous parle quand même ce pays de gauche ou ça aussi vous
oui,
avez
oui, oui, oui,
bah, quand même.
Je sais que ce pays s'appelle Le Pennair et en fait, comme je suis à ce moment là en grande conversation, mes parents, mon père est à droite ma mère est à gauche. Et j'ai les grandes conversations avec ma mère, qui lit, qui est socialiste et qui m'éduque en ce sens. Et elle, un jour, elle me dit, la gauche, c'est ça, c'est quand le social prime sur l'économique. Alors, cette phrase m'est restée, mais a construit un petit peu mon adhésion à un idéal de gauche. Et donc, le PNR est un pays qui obéit à ce...
À ses codes moraux.
À ses codes moraux, à ses codes politiques même. Mais le faut que je relise quand même.
Oui, là, je vous ai perturbé.
Beaucoup,
là.
Ouais.
Je suis vraiment désolée.
Parce que je voudrais savoir à quel point.
Je vais même un peu plus loin, puisque dans votre livre, vous raccrochez même cette information à l'évocation de votre adolescence dans les années 80, l'élection de François Mitterrand en 1981, oui. Et surtout donc du texte de Badinter sur la peine de mort. Et donc, vous racontez que vous êtes saisi par l'idée finalement de faire corps, d'être ensemble face à une idée qui vous semble une idée prête à l'engagement. Vous vous souvenez que vous l'avez écrit quand même ?
Oui, non, mais ça, c'est un texte que j'ai écrit pour deux raisons. Parce que dans ces sensations comme ça que j'essaie de traquer en écrivant, en partant d'une chose souvent. Diffuse, à moitié oubliée. Et là, c'était l'atmosphère très particulière de la cour d'assises de Versailles, où la femme qui travaillait chez nous, qui s'appelait Nicole Modeste, qui avait un nom qui semblait sorti de Balzac, Nicole Modeste nous emmenait, mon frère aîné et moi, au tribunal de Versailles, notamment à des procès d'assises. Elle l'a fait deux fois. Et la deuxième fois, donc on avait une quinzaine d'années, mon frère et moi, peut-être 17, lui, moi 15, et j'ai découvert cette salle très étrange, ce qu'est une salle d'assises. J'étais allé la première fois, ça m'avait tellement bouleversé de certaines manières que j'avais rien noté. Enfin, et à la deuxième fois, celui qui m'a sidéré, c'était l'avocat de la défense. Et surtout, dans le premier procès aussi, l'homme risquait sa tête, puis la peine de mort, évidemment, n'était pas abolie encore. Et ce deuxième procès, c'était un procès en cassation. Donc l'homme avait été condamné à mort en première instance. Et il avait tué, dans mon souvenir, c'était une famille de boulangers. J'ai retrouvé par la suite, d'ailleurs, d'une manière tout à fait terrifiante. Et il était quasi certain que la cassation allait de nouveau le condamner à mort. Et l'homme qu'il défendait, ce Mohamed Yayaoui, c'était le nom de l'accusé, c'était Robert Badinter. Et donc j'ai découvert sur la scène, parce que la première chose qui m'avait frappé, mais pas complètement, qui n'était pas apparu clairement pour moi, c'est que le tribunal était un théâtre. J'allais déjà beaucoup au théâtre. Il y avait les mêmes bruits de bois. La scène me semblait être comme une scène de théâtre, avec un décor de théâtre, avec des acteurs dont certains étaient vêtus comme avec des costumes de théâtre, et en même temps, ils étaient là pour établir la vérité. Et une vérité telle qu'elle pouvait avoir pour conséquence la mort de la personne que je voyais physiquement en scène. Vous savez, un des phénomènes les plus troublants au théâtre, c'est la conscience que la personne que je vois sur la scène est vivante. Et que si j'avais... Moi, je me rappelle, j'ai eu ce fantasme-là, mais je pense que beaucoup de spectateurs l'ont eu. Je me disais, si j'avais un revolver, je pourrais me lever et abattre cette personne. Cette personne mourrait, peut-être, de ma main. Donc, j'ai un pouvoir sur cette personne. Le fait de penser ça veut dire que j'ai le pouvoir d'interrompre toute personne ici, a le pouvoir d'interrompre, de m'apostropher et d'interférer avec le réel qui est le mien. Et ça, au théâtre, ça m'avait toujours, la première fois que j'ai vu une vedette, c'était Bernard Blier, hein, la première grande vedette comme ça que je voyais pour de vrai, c'est le fameux phénomène, je l'ai vu en vrai. J'ai vu pour de vrai, pour moi, le pour de vrai voulait dire, si j'avais voulu, j'aurais pu tuer cette personne. Chacun doit combiner avec sa propre violence. Hein. Bon, voilà. Pas quelqu'un de violent, mais on trafique avec des fantasmes de violence. Et donc, quand j'ai vu ce Badinter, je voyais cet accusé qui avait d'ailleurs une tête, c'était curieux comme on peut avoir la tête de son crime. Cet homme avait une tête absolument terrifiante et surtout un air tellement sombre, tellement fermé. Le premier m'avait frappé par sa l'absence. Ce procès Yayaoui était, je l'ai vécu d'une manière totalement viscérale. Et j'avais envie de bondir et de dire ne coupez pas, il a l'air très méchant, mais ne lui coupez pas la tête ou ne lui couperez pas la tête. J'avais été profondément bouleversé aussi par la lecture de Camus, de Victor Hugo, un petit essai, Le dernier jour du condamné, Claude Gueux. Et j'avais lu aussi, non, je le lirai après, je crois que je l'avais pas encore lu, L'abolition de Badinter, qui est un livre qui m'avait fasciné. Mais j'étais très, très aguerri sur la question de la peine de mort, très, et avec un copain à moi dont je parle un peu dans le texte, j'étais un militant passionné contre la peine de mort. Et alors là, on se lançait dans des débats parce que je me rendais compte que la plupart de mes camarades de classe étaient tout à fait pour et me disaient mais non, mais si on tue un enfant ou si. Et alors je développais des arguments qui étaient d'ailleurs ceux de Badinter contre la vengeance. Enfin, Dieu merci, tout ça a été aboli. Mais donc le souvenir de cette salle, c'est le croisement du théâtre et de la cour d'assises en tant que lieu théâtral où on dit la vérité, où le verdict est de vie ou de mort.
Ces scènes au tribunal, vous en parlez vraiment en racontant en fait leur effet incroyablement prégnant sur vous, sur ce jeune homme que vous êtes à ce moment-là. Est-ce que ces passages au tribunal auront eu un écho quand vous avez eu Michel Bouquet pour professeur qui vous invitait à chercher la noirceur dans ce que vous interprétiez?
Oui, sans doute, parce que c'est d'autres, parce que Michel Bouquet, je le voyais aussi comme un procureur, comme quelqu'un qui pouvait être absolument, qui était profondément bon d'ailleurs, mais comme le regard qu'il avait et le compte-rendu qu'il faisait des scènes qu'on proposait était le. Pour moi, parfois, le compte-rendu d'un procureur, quoi. Il y avait une condamnation à la clé qui n'était pas loin d'une condamnation à mort ou soudain d'une consécration de quelque chose qui nous transportait de joie. Il était aussi, parce que c'est là où le personnage de fiction, un professeur est aussi un grand professeur qu'on a adoré, aimé, est aussi un personnage de fiction. On en fait un personnage. Et en plus, redoublé par le fait que je l'avais vu au cinéma beaucoup, et que notamment il jouait ces personnages entre perversité et extrême dureté, puisqu'il pouvait d'ailleurs aussi bien jouer un meurtrier qu'un flic. Il avait été un Javert très impressionnant. Pour moi, c'est le parangon, c'est le Javert par excellence. Les Misérables étant un de mes livres de chevet. Je voyais en Bouquet à la fois un flic, mais aussi un tueur, donc quelqu'un qui était sombre, qui avait un fond. Il nous en parlait d'ailleurs. C'était très très émouvant de cette noirceur qui pouvait l'habiter, qui ne l'empêchait pas d'avoir une humanité, d'une générosité avec nous très très grande. Mais cet homme-là me faisait peur. Il avait un regard de requin. Quand je vois un requin, je retrouve Michel Bouquet. C'est un regard, voyez, parce qu'il nous regardait de très près.
Et vous voyez souvent des requins?
Et j'adorais les requins. Mais c'est parce que j'adorais la peur aussi. La peur était une chose que je cultivais en même temps.
Et que vous ne cultivez plus?
Si, je dis ça un peu à l'imparfait pour faire élégant, mais non, tous les acteurs jouent avec la peur, d'une certaine manière. La peur est un peu un présent. Un quotidien de l'acteur qui entre en scène, de l'acteur qui s'expose dans un rôle, dans une pièce, et qui se montre à une assistance comme aujourd'hui. Pour quelqu'un qui n'est pas forcément d'emblée dans la présence au monde, qui n'est pas tout à fait sûr d'être toujours présent au monde, c'est quelque chose. Donc il faut combiner, il faut jouer avec la peur.
Vous dites c'est un mélange entre la joie et la trouille en permanence.
Oui. Vous savez la phrase de dans le film de Truffaut, c'est une joie et une souffrance.
Tout à fait. C'est chose qui vous développez cette idée-là quand vous parlez de votre casting pour le rôle d'Hernani, dans la pièce Hernani, qui est un passage qui est à la fois bouleversant et cocasse.
Oui, c'est pour moi aussi le écrire est beaucoup lié à la comédie. J'écris pas des textes drôles, pas tous, mais je sais déjà un peu par politesse, parce que je trouve que raconter une histoire un peu difficile, si je peux la donner avec un peu d'humour, un peu de distance, ça me paraît plus élégant. Et quelquefois aussi, ça rachète l'histoire douloureuse en question. Là, c'est une résumé. C'est je raconte un engagement dans un Hernani. J'étais engagé par un metteur en scène. C'est vraiment tout début. J'avais rien fait d'ailleurs. Je sortais du conservatoire, juste un petit spectacle. Et j'étais engagé pour jouer le rôle d'Hernani. Et puis dès la première lecture, après, j'avais dû auditionner un nombre de fois incalculable. Je comprenais même plus pourquoi il me rappelait. Je pensais qu'il voulait pas, puis finalement oui, puis finalement non, puis finalement oui. Et donc à la première lecture, après m'avoir présenté à tout le monde, il avait dit et puis Denis qui va jouer Hernani. Enfin, il faut qu'il fasse ses preuves. Et là, j'avais entendu ça comme un verdict en fait. Je me dis, je comprends pas, je suis pas engagé, ça veut dire que quoi? Et donc j'ai perdu mes moyens et tout ça. Et j'ai répété pendant un mois vraiment avec un sentiment d'échec terrible jusqu'à ce que j'ai été remercié et donc viré. Et puis j'ai vu finalement, quand j'ai vu le spectacle, ça m'a une sorte de satisfaction amère à voir que le spectacle était très mauvais et que celui qui m'avait remplacé, c'était pas, à mon avis, c'était pas ça. Mais j'aurais pas été meilleur, ça c'est certain, puisque j'avais été complètement détruit dès le premier jour. Enfin, c'était aussi un des problèmes de jeunes acteurs, c'est la confiance et le.
Mais voilà, à propos de cette anecdote, vous dites que finalement, être un acteur, c'est ce mélange en permanence entre la joie, la trouille et la frustration.
Oui, avec plus ou moins
de degrés
des uns et des autres. Il y a des expériences purement joyeuses quand même, heureusement.
Moi, mais à force, en fait, ça reste ces trois ingrédients malgré tout.
Il y a des expériences comme dans toute, je sais pas, dans toute trajectoire de vie, on est en but à ces questions-là. Tout le monde a des moments d'intense frustration ou à surmonter un échec. J'aime dans la vie d'acteur, il y a. J'aime pas trop raconter ce qui est extraordinaire, en fait. J'aime pas trop, ça m'inspire pas.
Oui, d'ailleurs, vous dites que finalement, l'échec vous inspire souvent
beaucoup,
l'écriture.
Beaucoup plus, oui. J'ai beaucoup écrit pour surmonter, mais même très jeune, quand j'écrivais de la poésie, où j'écrivais j'écrivais beaucoup de correspondances imaginaires entre des gens. J'écrivais des pièces de théâtre, j'écrivais des poésies, et c'était souvent pour lutter contre un sentiment d'échec, une frustration. C'est plutôt ça qui me faisait écrire, alors que la vie heureuse ou un moment de vie très heureux. Alors, j'ai essayé quand même d'en écrire, d'ailleurs même dans ce livre, notamment le texte qui suit celui sur Hernani, qui donne son titre au livre, est un moment purement heureux. Mais les moments, c'est Stendhal qui disait ça, comme c'est difficile d'écrire. L'écriture du bonheur, c'est très 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 dur. D'ailleurs, personne n'écrit un livre du début à la fin et dit je vais très très bien, je vais vraiment très très bien, tout ce qui m'arrivait bien. Vous dites bon.
Et vous écrivez alors du coup, en fait, et dans cette veine-là, non seulement vous dites que finalement c'est l'échec qui suscite votre envie d'écrire et puis oui, qui vous donne les mots. Et puis, dans le même temps, vous dites aussi que finalement, vous êtes dans une gloire inespérée par vos tares. Vous dites que c'est ça qui fait que. Donc, est-ce que aujourd'hui vous arrivez à vous en amuser, à en jouer et à plus les patiner que vous ne racontez dans ce livre que plus jeune, finalement, c'est un hasard. Vous faites rire sans le vouloir.
Oui, l'expérience du comique, d'ailleurs, c'est une expérience qu'on fait un peu, mais même tous les gens drôles, d'ailleurs. Le don comique, si on l'a, est quelque chose qu'on découvre un peu par hasard, le rire des autres. Sinon, soi-même tout seul, on se fait pas rire. Enfin, c'est très rare que quelqu'un se fasse rire dans sa salle de bain. Enfin, ça peut arriver, mais moi, c'était mon frère qui, après une scène d'un film qui s'appelle Vincent Rive Gauche, qui était notre premier tournage, m'avait appelé pour me dire: Denis, t'es vraiment très très drôle, tu sais, dans la scène. Et moi, j'avais cette scène, c'était une scène où j'étais enfermé dans des toilettes. C'était pénible à tourner en fait, et j'avais joué un peu sans y penser, donc ça m'avait interpellé. Et au théâtre aussi, j'ai remarqué que souvent, moi, les acteurs souvent me font rire quand ils ne le savent pas. Et c'est la phrase de Marivaux qui, pour moi, il donnait toujours ce conseil-là à ses acteurs. Les acteurs ne doivent pas sentir la valeur de ce qu'ils disent. Ils ne doivent pas se rendre compte, par exemple, qu'ils font un mot d'esprit. Parce qu'un acteur qui joue un mot d'esprit en faisant le spirituel, c'est terriblement redondant et c'est souvent très pénible. Enfin, moi, ça me... l'effet voulu, l'effet forcé, même s'il y a parfois il y a du comique qui arrive par outrance, qui est souvent très dur à fourbir. C'est les grands génies comiques, Louis de Funès par exemple, qui sont capables, dans la surenchère, qui sont capables d'en faire beaucoup et que ce beaucoup soit ce qu'on désire et même on en redemande encore, qui prolonge encore à l'infini le comique. Ça, il faut être vraiment dans une toute autre... Mais même ces grands acteurs comiques, en fait, on se rend compte d'ailleurs que Louis de Funès, il en fait pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est un petit fil qui suit. Et en fait, il le fait croître et progresser. Et il rentre dans une zone de lui-même où il est totalement fou. Et c'est cet oubli de lui-même dans la scène comique qui est prodigieux. C'est pas quelque chose qu'il a forcément complètement répété. C'est soudain, le comique, c'est un espèce de démon. C'est un génie qui jaillit, sort et ça fulgure. Des amis comme ça qui ont une sorte de comique viscéral, mais c'est pas sur commande, c'est pas forcément. Alors, c'est pour ça que je demande énormément de travail pour ensuite donner l'impression que ce comique là sort un peu par hasard. Il faut à la fois oublier, transformer les choses, répéter énormément. C'est une épreuve d'ailleurs. Vous avez rarement des comiques qui vous diront qu'ils se marrent tout le temps, y compris quand ils répètent leur spectacle.
Dans ce livre de Denis Podalydès, on a l'impression que donc, vous parlez du rire, de la joie extrême, de la peur, vous parlez du deuil aussi à un moment donné, en disant dans le deuil, on se rend compte que la solitude, le rire s'échappe tout seul. Au fond, on a la sensation que les émotions vous traversent, mais que... quoi qu'il arrive, vous n'êtes jamais dans aucun contrôle de rien. Vous laissez les émotions vivre comme elles sont. Vous avez une sorte de facilité à lâcher.
J'ai pas toujours eu cette facilité-là et je suis même pas sûr de l'avoir vraiment. Mais il y a des expériences qui vous permettent ça. Alors j'évoque un film, un tournage, au début du livre et à la fin du livre. Le livre se termine d'ailleurs par... des scènes qui sont des scènes de ce film, mais qui sont aussi des scènes du livre. Un film qui sortira d'ailleurs au début février, qui s'appelle La Grande Magie, d'après une pièce italienne. Et j'ai vécu dans ce tournage une sorte d'expérience de lâcher prise et de détente absolue. Donc, c'est pas naturellement quelqu'un de trop détendu. Faire l'épreuve du bonheur, d'une sorte de bonheur total, fugitif. C'est toujours fugitif, mais parce que souvent le bonheur, c'est on se dit ah, mais j'ai été très heureux à telle période, mais je ne le savais pas tant que ça à l'époque. Et là, parfois, il y a eu des moments où je sentais l'instant parfait, mais que c'était aussi lié au tournage du film. Ces instants parfaits, c'était aussi des prises, des scènes du film. Et comme j'étais aussi en train de terminer ce livre, j'avais une sorte de joie double. La joie de tourner ce film, de lâcher prise dans ce film, et la joie de pouvoir... j'écrivais pas directement cette joie, parce que je retravaillais d'autres textes, mais en même temps, je sentais que le livre s'ouvrait, se construisait, se refermait aussi. Et ma mère aussi, qui ressurgissait, puisque c'était un tournage en Bretagne, dans un endroit où on est allé beaucoup en vacances enfant, où se situe à la fin... J'essaie de, à partir de ces petites sensations, j'essaie vraiment presque par déduction de trouver le tout premier souvenir d'enfance. Et j'ai à peu près répertorié une dizaine de souvenirs et je sens que parmi eux, doit y avoir le tout premier. Je suis pas tout à fait sûr. Et en fait, je l'en ai déduit du simple fait que si c'était des sensations diffuses qui ne donnaient pas forcément lieu à un récit, C'était des choses que j'avais dû vivre. Par exemple, un des vraiment tout premiers, c'est la sensation au sortir du tunnel de Saint-Cloud à Paris en voiture, ouais. Alors que mes parents nous emmenaient aux eaux de Vincennes, donc on allait faire tout le tour, de découvrir Paris comme ça à la sortie du pont de Saint-Cloud. Vous voyez une étendue très vaste. Et dans la voiture, il y avait un climat très joyeux parce que c'était avec des amis de mes parents que j'aimais beaucoup, et donc un climat de bonheur intense. Au débouché d'un tunnel, et je me dis, mais forcément, c'est moi qui l'ai vécu. Personne ne me l'a raconté, ce souvenir, parce qu'il c'est on vous raconte des souvenirs qui sont des anecdotes qui se construisent en histoire. On vous dit pas, tiens, un jour, tu as pris la voiture, on a passé le tunnel de Saint-Cloud et tu étais tout content. C'est pas des souvenirs qu'on vous, c'est pas des photos non plus. Personne n'avait fait de photos dans la voiture. Donc là, j'en ai déduit que ça, c'était un souvenir, c'était vraiment premier. Et tout ça m'est venu dans cette Bretagne. Et il n'y a pas tant, il y a quelques semaines, au cours d'une rencontre sur ce livre, c'est le fameux pays Pennaire, dont j'avais inventé le nom, pour moi, totalement arbitraire, né de rien. C'est bien ça que je voulais. Eh bien, en fait, c'était un lieu-dit breton, à quelques kilomètres, quelques dizaines peut-être, 10, 20 kilomètres, précisément de Begmey, là où je tournais ce film. Donc je me dis, ah ben c'est fou. En écrivant, je ne le savais pas du tout. Et c'est une dame qui m'a écrit en me disant, alors, que ce Pennaire, en fait, le Pennaire.
Oui, mais donc en fait, on a l'impression aussi que vous rejouez, enfin en tout cas, vous mettez un peu de temps à revivre les choses, mais aussi à comprendre ce que vous avez ressenti.
Bah oui, moi oui. Mais je pense que c'est l'écriture qui me permet de comprendre un peu ça ou de le relier. C'est là où. C'est à la fois de la mémoire et de la fiction, parce que parfois je fais des déductions que je n'aurais pas faites à l'époque ou que j'aurais pas relié à tel ou tel événement. Et puis soudain, ça se cristallise. Il y a quelque chose qui prend et qui fait que je crois. Mais en fait, je le tire. Par exemple, là, je raconte une après-midi où j'auditionne pour un personnage de Corneille qui s'appelle Célidan, d'où le titre du livre. Et je considère cet après-midi d'audition comme un des moments les plus heureux de mon existence. J'ai été très heureux, mais je ne le savais pas. J'espérais que j'en allais connaître plein, des moments comme celui-là. Sur le moment, j'ai été, parce que j'auditionnais, je jouais des scènes de la pièce avec le metteur en scène Christian Risse, qui jouait lui-même. Donc, ce n'était pas une audition où lui était assis et il me regardait me produire, mais il jouait totalement avec moi, comme mon frère l'avait fait. Et à l'inverse de Michel Bouquet, qui nous regardait avec ses yeux de requin, très adorable par ailleurs, je voudrais pas que vous reteniez que, que Michel Bouquet n'était pas un requin, mais alors pas du tout. Mais moi, impressionnable, je le voyais comme ça. Et là, c'était Christian Risse, un homme assez jeune, et me voyait un peu comme mon frère m'avait vu, et non seulement il ne me jugeait pas, mais il jouait avec moi. Il jouait totalement, à tel point qu'à un moment, je le jetais carrément par terre et je l'insultais dans les vers de Corneille. Mais nous étions comme, finalement, deux jeunes acteurs livrés complètement au jeu dans ce parc de Sceaux, c'était au parc de Sceaux, qui se désertait au fur et à mesure où le soleil déclinait. Et donc, j'ai eu le sentiment, ce jour-là, que je pouvais être fait pour ce métier. Que d'abord, à un moment, il m'a tapé l'épaule en me disant « C'est bon, tu es engagé sans plus de façon que ça. » Et donc, ça a été... Mais sur le moment, non, j'ai pas... C'est probablement en écrivant le texte et en le mettant en forme, en vraiment cherchant les mots pour le dire, que la sensation du bonheur a été plus réellement touchée.
Toutes les sensations, parce qu'en fait, en vous lisant, on a l'impression que vous nous racontez et que en racontant, vous réalisez à la fois cette faculté de partir comme ça, d'une façon très poétique, de partir du réel pour le transformer, le raconter, et en même temps le ressentir réellement et vous souvenir que vous avez été touché d'une façon ou d'une autre. Mmh. Et d'ailleurs, dans ce livre, vous dites aussi que pour vous, les mots sont un peu comme des pierres précieuses. C'est comme si c'était un révélateur. Vous avez fait Cagne, vous avez fait Hippocagne. Il y a quelque chose qui vous relie aux mots. Alors quoi? Plus que aux objets, au monde qui vous entoure, en fait, voilà. Quel rapport vous avez avec les mots?
Ben, c'est un rapport alors très heureux. En fait, ce que j'ai aimé parler, babiller. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle je suis acteur, c'est que je peux parler à haute voix. Je peux dire des mots, pas seulement des mots, c'est des textes, c'est-à-dire des mots écrits dans un certain style, avec une certaine inflexion. Je peux vraiment les modeler. Et c'est comme d'autres découvrent la peinture ou la glaise et aiment y mettre les mains, moi aussi. D'ailleurs, je mets les mains dans les mots. Je considère les mots comme une sorte de matière tangible. Et mon métier, c'est de les faire tenir un peu dans l'air. Les phrases d'un très beau texte, quand on joue un grand texte, par exemple, je parle pas là des miens, mais il y a ce plaisir extrême à dire des mots comme si on dressait une réalité qui a presque de l'existence matérielle. Donc ça, j'ai toujours eu ce plaisir-là. Je sais qu'on me l'a dit très tôt dans l'enfance, que j'aimais dire, répéter les phrases, même, et surtout les phrases que je comprenais pas. J'aimais d'ailleurs, souvent dans les livres que je lisais, j'étais très attiré par ce que je comprenais pas. Je sentais que là, il y avait un mystère, il y avait un secret, et que c'était comme une mine dans laquelle j'allais chercher de l'or. Et je comprends toujours les gens qui sont fascinés comme ça par des textes ou des poèmes. C'est pour ça que les poèmes hermétiques ne m'étaient c'est pas du tout un problème pour moi. Au contraire, j'aimais Mallarmé, j'ai toujours aimé Mallarmé au plus profond. J'aimais les surréalistes. Quand je lisais Le ciel est bleu comme une orange, c'est génial. Voilà, ça fait exister. Alors j'avais des conversations avec des copains qui disaient, mais non, mais c'est débile, le ciel, il n'est pas bleu, il n'est pas bleu comme une orange, en fait, je ne peux pas dire ça. Et moi, je disais, mais justement, la fameuse rencontre du parapluie et sur la phrase de Lautréamont, là. Donc, les mots me donnaient, en fait, la jouissance qu'il y a à trouver que la terre est bleue comme une orange, c'est magnifique, le ciel est bleu comme une orange, je ne sais plus d'ailleurs. C'est que les mots prennent une autonomie. En fait, ils se détachent du réel. C'est comme le peintre qui découvre le cubisme ou qui découvre l'art non figuratif. Il peut s'affranchir complètement du réel. Il peut faire une pomme carrée, cubique. Et j'imagine le vertige extrême d'un seul coup, alors que la peinture, pendant des siècles, c'était répondre à des commandes. Elle devait filmer des moments de la vie du Christ ou des portraits. Et soudain, elle s'affranchit de tout le réel et on peint ce qu'on a dans la tête. On dit ce qu'on a dans la tête et sous la forme avec laquelle ça nous vient. C'est une expérience de la liberté à même... Je ne connais pas de plus belle liberté que celle qu'il y a dans le langage. Oui, je pourrais dire ça.
Quand vous écrivez un livre, qu'est-ce qui se passe? Par quel mot vous commencez? Comment ça marche?
J'écris... plusieurs textes, en fait. Ça part un peu dans tous les sens. Ça part complètement dans tous les sens. Ça n'est pas le premier mot et puis le dernier jusqu'au... C'est pas linéaire du tout.
Mais vous réécrivez parce
beaucoup.
Que...
Beaucoup. En fait, j'écris, je jette une matière, j'écris, et puis après, je reprends ça et là, je pétris.
Vous êtes un sculpteur de
ça.
Vous.
Oui, plutôt, ce serait plutôt de cet ordre-là. Et souvent, un texte, je l'ouvre en deux, c'est je me mets au milieu et je réécris à partir du milieu. Puis, ce qui fait que ça prolifère et le début soit disparaît, soit le début se replace ailleurs. Et puis, il y a un jour où j'ai plein de dossiers sur mon ordinateur, parce que j'écris à l'ordinateur, parfois manuscrits, mais quand je suis obligé de noter, quand je suis en salle de répétition, par exemple, quand je fais ça à l'iPad maintenant. Et puis, donc, tous ces textes, je les ai à la fois sur le bureau de l'ordinateur, je les ai aussi en imprime, et puis je commence à faire des recoupements, des montages. Et là, ça, c'est un moment très, très agréable.
Parce que vous mettez en forme ces mots. Alors, dans ce livre, vous faites référence aussi à Platon, au Cratyle, hein, c'est-à-dire les mots qui ont des odeurs, les mots qui ont des textures.
Les mots qui ont un rapport direct. Le mot qui dit, le mot sonore dit d'une certaine manière la chose qu'il désigne. Qui a une illusion, parce que c'était Il y a plein, Claudel adorait ce jeu-là, dire que dans le mot caca, par exemple, il y a toute la matière fécale. Parce que le mot caca, phoniquement, il n'est pas loin de la merde. Ce ne sera pas le dernier mot de la soirée. Hein.
Et alors finalement, quand vous avez écrit ce livre, comment vous pouvez vous arrêter d'écrire? Puisque on sent bien, c'est une expérience que vous vivez, que vous travaillez, et dans laquelle vous, on a l'impression que vous découvrez, que vous avez des souvenirs, que ce sont des histoires, quand vous avez ressenti des choses, vous les avez même pas vues passer. Que, donc à quel moment vous pouvez vous arrêter, puisque on a la sensation quand on vous lit, que c'est une expérience qui ne s'arrête pas.
Oui, d'ailleurs, moi je crois que j'ai écrit plus ou moins un peu le même livre d'une certaine manière. Mon premier livre s'appelait « Scène de la vie d'acteur ». Là, il y a, ça pourrait s'appeler « Scène de la vie privée », et puis en même temps quand même « Scène de la vie d'acteur », parce qu'il y a des deux. Scène de la vie, donc c'est des scènes. Je pense que c'est des scènes d'une certaine manière. C'est des petits, des petites nouvelles. Là, je voyais un peu plutôt comme des nouvelles autobiographiques. Donc, au bout d'un moment, j'ai un certain nombre de textes. Je commence à les ordonner. Je trouve qu'il y a à peu près un texte premier, un texte dernier. Après, il y a je cherche un ordre. Là, j'ai cherché un ordre chronologique, tout bêtement. Entre, il y a un premier texte donc qui présente quand même. Le goût du passé, disons, et le dernier texte qui est un peu le rappel de tout ça, les deux faisant référence à ce film dont je parlais tout à l'heure. Et puis après, ce sont des scènes dans un ordre chronologique, scènes d'enfance, scènes d'adolescence, scènes de maturité et scènes d'aujourd'hui. Donc ça s'ordonne un peu comme ça peut. Je peux pas dire que soudain la composition elle soit ni ultra savante. Ni pleine de malice, de secrets. Il faut que j'en finisse. Il y a un moment, faut que j'en finisse. Et c'est tout. Donc, faut pas. C'est pas. Et en plus, moi, je me dis, je peux pas travailler. J'ai essayé de faire un roman, mais je peux pas travailler sur un temps continu. Comme je travaille dans les marges de mon métier, dans les transports, dans les gares, dans les aéroports, rarement chez moi, finalement. Et ben j'ai une pratique complètement discontinue et donc pour j'arrive pas à faire donc de l'écriture en continu. J'ai essayé, c'est un enfer parce que j'oublie ce que j'ai écrit, je suis obligé de reprendre. Alors quand je reprends, je recommence, donc ça peut être infini. Et donc c'est pour ça que je préfère une pratique délibérément fragmentaire, qui fait que c'est un livre qui peut se lire d'ailleurs par fragments.
Oui,
on peut
lire les pages ado d'abord,
puis si on veut, voilà. Oui, on peut ne pas tout lire, même.
Oui, tout à fait.
Un livre, on peut même ne rien lire du tout.
C'est fou.
C'est fou, c'est.
Ce sera ma dernière question, ouais. Malheureusement, parce que ça passe très vite. Mais alors, maintenant que vous l'avez terminé, ce livre, quel est le mot qui vous vient à l'esprit quand vous y pensez?
J'allais dire le mot et puis en fait je l'ai censuré, puis je vais le dire quand même parce que en fait c'est une personne, c'est ma mère. En fait, parce qu'il est beaucoup. Ma mère, elle va et vient dans le livre. Elle disparaît, elle réapparaît, elle disparaît. C'est lié à ça aussi, sa condition. Elle est malade, elle a une dégénérescence cérébrale qui fait qu'elle est plus tout à fait. Je le dis à un moment dans le livre. Je sais que je disparais de sa mémoire. Et donc quand je la vois et que je parle avec elle, je sais d'abord que le temps sera assez court parce que ça la fatigue. Et puis elle est tout à fait, je dirais pas fermée, mais on a l'impression que les émotions ne parviennent pas et que réveiller chez elle une émotion est une chose très très difficile, très délicate parce que on hésite à le faire parce qu'en fait elle est dans une certaine paix. Elle est pas malheureuse. Elle est dans un monde qui est un monde de beaucoup de chansons. Elle chante énormément. Et elle sait qui on est parfaitement. Elle reconnaît ses enfants, ses petits-enfants. Elle sait qui, par exemple, on a parlé de Macron la dernière fois. Et là, je me suis rendu compte qu'elle était au courant quand même de certaines actualités. Et puis pas du tout à d'autres moments. Je la fais parler de son histoire, de son passé. Ça n'intéresse pas trop, voire pas du tout. Et donc voilà. Et au moment où le livre s'est à peu près constitué, c'est-à-dire que j'avais un nombre de textes et puis je sentais qu'elle est apparue un peu comme le personnage un peu fantomatique quand même, parce que je la vois très peu, ma mère, je me le reproche suffisamment. Il y a une scène d'ailleurs qui raconte au ministère de la Culture, qui m'a valu un peu une lettre touchante de la personne dont je tais le nom, dont je tairai le nom, qui était le ministre en question, qui s'est senti un peu attaqué, alors que pas du tout. J'avais rendez-vous avec lui, il voulait qu'on parle de quelque chose, quoi, je n'ai jamais su, mais j'étais invité à déjeuner au ministère de la Culture. On s'est retrouvé à trois, lui, un conseiller et moi. Et au bout de cinq minutes, on lui a apporté un petit papier sur une petite coupelle et il a blêmi et il s'est excusé, il est parti. Je suis resté avec le conseiller. Et le conseiller m'a dit, vous savez, je ne sais pas du tout pourquoi il vous a fait venir. Alors, c'était très bon. Et puis, cet homme-là, on s'est mis à parler un peu de tout et de rien. Et puis, je le sentais de plus en plus mélancolique. Et à la fin, il m'a dit, monsieur, est-ce que vous avez dit à votre mère que vous l'aimiez? Je ne m'attendais pas du tout. Je n'ai vraiment pas là pour ça. Et ça me faisait plutôt... et j'avais pas envie de me confier du tout. Et ça me faisait rire, ça me faisait pas rire. Je trouvais ça très, très... Et rétrospectivement, la scène me faisait plutôt rire, donc j'en ai fait un peu une scène un peu comique. Et puis, en l'agençant dans le livre, finalement, je laisse le lecteur choisir si la scène est ironique, comique ou si
touchante.
Mais je ne le force pas, je ne le dis pas.
Comme vous le dites effectivement dans votre livre, on a un peu la sensation que vous vous adressez aussi à votre mère. Enfin, vous lui racontez, vous conversez avec elle en filigrane. Mmh. Il y a de ça. D'ailleurs, vous en parlez. Vous dites de votre mère, de votre grand-mère, que c'est tout un monde à explorer. Oui. Vous dites aussi que finalement, la Bretagne, attachée à vos souvenirs d'enfance, génère chez vous énormément de souvenirs et des conversations avec des fantômes. Mmh. Dans ce livre-là. Et donc, finalement. Ce serait un livre nostalgique.
Ah, j'aime pas beaucoup dire ça, mais nostalgique, j'espère pas au sens sentimental du terme, au sens de c'est le goût du retour ou la douleur liée au retour. C'est forcément lié à l'idée du retour. Donc ce serait plutôt dans l'étymologie du mot que j'abonderais, quoi, que je dirais oui. Oui, il y a forcément de la nostalgie. C'est aussi que quand je vais avoir 60 ans dans quelques mois, voire quelques semaines, c'est un moment où le plus gros est passé et on commence à guetter les rétroviseurs.
Mais c'est aussi cette nostalgie. En fait, ce que vous nous montrez, c'est votre talent de sculpteur pour en faire quelque chose d'assez poétique.
D'assez, oui.
Vous en rendez compte de ça ou pas?
J'ai toujours aimé la poésie, j'en ai toujours écrit. J'ai le goût des mots agencés de manière plus ou moins poétique. Donc oui, je sais ce qui me sépare des écrivains que je place à certains. Ça, et j'ai pas de frustration là-dessus. J'ai un goût suffisamment développé, je crois, de la littérature pour savoir exactement où je me situe et quelles sont mes possibilités ou mes ambitions. Et j'ai essayé parfois d'être plus ambitieux. Et je sais qu'il faut... Non, non. je reste à une certaine place, mais qui me semble... Parce que quand on a 18 ans et qu'on aime la poésie, ben on veut être... Victor Hugo ou rien, quoi. Voilà, on veut être Aragon, Brimbaud. C'est Rimbaud qui fascine. C'est pas un poète plus mineur.
Nous, on est très contents que vous soyez Denis Paul-Hélène.
Merci.
Merci à vous.
Merci.